Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Bion, il est 10h en temps universel. Bonjour à tous. La jeune femme qui a déclenché sa charge lundi en milieu de journée en Tunisie en visant une patrouille de police sur la principale avenue de Tunis était diplômée et au chômage, a indiqué le parquet antiterroriste tunisien. 20 personnes, dont 15 policiers et 2 adolescents, ont été blessés dans cette attaque. La première a secoué la capitale tunisienne depuis 2015, mais aucune n'a été touchée grièvement selon les autorités. La vie est revenue à la normale sur l'avenue Bourguiba, hormis une présence policière renforcée sur cette artère déjà très surveillée habituellement, où se trouve le ministère de l'Intérieur, l'ambassade de France ou encore la cathédrale de Tunis. Au Nigeria, de nouvelles violences ont éclaté lundi entre partisans d'un groupe chiite radical et forces de l'ordre à Abuja. Elles font suite à des affrontements qui ont fait 3 morts pendant le week-end, toujours dans la capitale fédérale. Eric Manirakiza.
L'armée et la police sont affrontés des manifestants du mouvement islamique du Nigeria. Le porte-parole de son groupe, Ibrahim Moussa, a fait état de plusieurs morts. Il n'a pas pu donner de chiffres précis car il n'était pas sur place. Un porte-parole militaire, James Miam, a affirmé que les membres de son mouvement chiite avaient attaqué des soldats et que ces derniers s'étaient seulement défendus. Amnesty International a déclaré que les informations faisant état d'usage de balles réelles sur les manifestants non armés étaient très inquiétantes. Le leader chiite nigérian Ibrahim Zakzaki ne reconnaît pas l'autorité d'Abuja et souhaite établir un État islamique à l'iranienne dans un pays où les musulmans sunnites sont majoritaires. Il est emprisonné depuis les violentes manifestations qui avaient secoué Zaria dans le nord du Nigeria en décembre 2015. Fin 2016, un tribunal fédéral avait jugé la détention du leader chiite illégal et ordonné sa libération. Mais cette décision n'a jamais été exécutée. Ses partisans ont organisé ces derniers mois de nombreuses manifestations pour réclamer sa libération, débouchant sur des heurts avec la police.
En Guinée, l'opposition a l'intention d'organiser aujourd'hui à Conakry une marche et un meeting, une semaine après une manifestation au cours de laquelle une balle a été tirée sur le véhicule du chef de l'opposition, Sélou Dalein Diallo, et un jeune homme de 18 ans tué par les forces de l'ordre, selon ses proches. Hier, les rues de Conakry étaient en grande partie vides. Lundi matin, en raison de l'appel à une journée ville morte lancée par l'opposition, elle proteste ainsi contre la violation, selon elle, d'un accord avec le pouvoir sur l'installation des élus locaux après le scrutin contesté du 4 février.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les Israéliens ont commencé à voter ce matin dans le cadre d'élections municipales, un scrutin au cours duquel un proche du Premier ministre Benjamin Netanyahou tente de prendre la mairie de Jérusalem, tandis que les habitants du plateau syrien du Golan occupés sont appelés à voter pour la première fois. Les bureaux de vote ont ouvert à 5h GMT et doivent fermer à 20h GMT. Le jour du scrutin est férié, même si certains scrutins locaux ont constitué des tremplins pour des politiciens aux ambitions nationales. L'élection des maires et des conseils municipaux, qui a lieu tous les 5 ans, est largement considérée en Israël comme une affaire locale. Le procureur général d'Arabie Saoudite s'est de nouveau entretenu ce mardi avec son homologue d'Istanbul dans le cadre de l'enquête sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat de son pays dans la métropole turque, selon les médias. Saoud Ben Abdallah Al-Mouajab est arrivé au palais de justice d'Istanbul peu après 8 heures GMT pour rencontrer le procureur général de la République turque à Istanbul, Irfan Fidan, pour la deuxième fois en autant de jours, a indiqué l'agence étatique Anadolu. L'entretien de lundi avait déjà duré plus d'une heure. La plus haute juridiction de Corée du Sud a ordonné aujourd'hui un géant japonais de l'acier de dédommager des travailleurs forcés de la Seconde Guerre mondiale, un jugement qui devrait envenimer davantage les relations entre les deux voisins. L'arrêt rendu ce mardi par la Cour suprême constitue probablement le dernier acte d'un marathon judiciaire qui dure depuis 21 ans, lancé par 4 Sud-Coréens, dont un seul est encore en vie. Contre Nippon Steel et Sumitomo Metal, ils accusent l'entreprise de les avoir contraints à travailler dans ces aciéries entre 1941 et 1943. Point final à ce point de l'actualité. Le prochain, c'est dans 55 minutes. Merci d'être avec nous. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et maintenant...